France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT Sandinga House.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Es.
Un jour dans le monde, c'est un jour de gauche américaine et au-delà.
I am Donald Trump's worst nightmare as a progressive Muslim immigrant who actually fights for the things that I believe in.
Il s'appelle Zohran Mamdani, vous l'avez peut-être reconnu pendant la campagne des primaires démocrates qu'il a fini par gagner. Là, c'était le 5 juin à New York, évidemment sur NBC. Bonsoir Mathieu Gallaire.
Bonsoir.
Vous êtes directeur d'études chez Ipsos. Vous avez écrit notamment Les États-Unis au bord de la guerre civile chez Aube, Fondation Jean Jaurès. C'était l'année dernière en 2024. On voulait revenir sur cet improbable gagnant de la primaire démocrate à New York, en fait. Zohran Mamdani, donc parce que les questions qu'il aborde et les réactions qu'il suscite aussi nous parlent peut-être de toutes ces gauches justement éteintes par la montée des trumpismes et qui n'ont pas toujours trouvé la clé. On va essayer de se demander s'ils sont en train de toucher du doigt quelque chose. D'abord dans ce qu'il dit, je suis le pire cauchemar de Donald Trump, je suis progressiste, immigré, musulman qui se bat pour ce en quoi il croit. Est-ce qu'il s'est bien défini? Est-ce qu'au fond c'est plus que l'anti-Trump d'ailleurs, le MAGA à l'envers selon vous, Mamdani?
Alors je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais c'est vrai qu'il incarne à la fois par ce qu'il est, par ses origines et aussi par son positionnement politique, une opposition assez radicale à Donald Trump. C'est vrai que jusqu'ici, depuis l'irruption de Trump dans la vie politique américaine, ses principaux adversaires, Hillary Clinton en 2016, Joe Biden en 2020, Kamala Harris en 2024, ils venaient plutôt, peut-être pas de l'aile centriste du Parti démocrate, mais en tout cas ils étaient au point d'équilibre du Parti démocrate. Là c'est vrai que lui, il incarne tout autre chose, il est beaucoup plus proche de l'aile gauche du parti, d'un Bernie Sanders, d'une Alexandria Ocasio-Cortez. Et c'est vrai que du coup, ça a créé évidemment un contraste absolument saisissant avec un Donald Trump qui, à la fois lui aussi dans ce qu'il est et dans ses positionnements, est vraiment le négatif de Mamdani.
Alors un contraste et peut-être aussi un séisme du côté des démocrates. D'abord, est-ce que vous diriez quand même que, est-ce qu'on le regarde comme un phénomène new-yorkais ou comme un phénomène du parti démocrate? Au moment où on se parle.
Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, sa victoire, elle est vraiment importante, impressionnante en termes de voix, de vote populaire, et puis elle est inattendue. C'est vrai qu'il y a encore, ne serait-ce que quelques semaines, il restait encore très peu connu par les New-Yorkais, il était très bas dans les sondages, il a vraiment su créer une dynamique rapidement.
Il a démarré à 1%, c'est vrai que personne ne savait qui était ce monsieur.
Il était totalement inconnu, je veux dire, c'était un député à l'Assemblée locale de l'État de New York, qui, voilà, il y a quelques mois, n'était pas du tout connu. Donc il a véritablement su jouer sur toutes les cordes qui résonnaient pour une partie de l'électorat new-yorkais, donc c'est extrêmement important, et il a su du coup étendre une base électorale extrêmement divers en créant une coalition électorale qui est très variée. Vraiment, il a su à la fois conquérir l'électorat blanc des classes moyennes à New York, mais aussi une grande partie de l'électorat blanc le plus aisé. On voit par exemple dans le district financier de Manhattan, là où habitent les gens qui travaillent dans les fonds d'investissement, les fonds de pension.
C'est peut-être le plus étonnant au fond, parce que ce qu'on se dit en le voyant, c'est qu'il a été complètement à rebours de tout ce que proposent les démocrates jusqu'à présent, en tout cas, et qu'ils ont fait avec Kamala Harris. Il a été chercher les gens, il a été les chercher à leur porte, en tapant, c'est une campagne à la Barack Obama, en tapant vraiment aux portes, en leur demandant pourquoi ils ont voté Trump, en leur promettant des bus gratuits, en leur promettant des épiceries. Donc on est sur le pouvoir d'achat, qui était l'un des arguments de Trump. Il a aussi été chercher les étudiants de Columbia, ceux qui étaient pro-palestiniens, et là aussi, on a senti combien les démocrates marchaient sur des œufs. Donc on a l'impression qu'il est complètement à rebours, en fait, de ce qu'est habituellement le mode d'approche du Parti démocrate.
En tout cas, il a réussi deux choses qui doivent être liées pour qu'elles puissent fonctionner. La première chose, et vous l'avez très bien dit, c'est qu'il avait un sujet. Ce sujet, c'était la question du pouvoir d'achat. Vous alliez voir son site internet, on ne parlait quasiment que de la question du coût de la vie. Et c'est vrai que tout son programme, les grandes mesures qu'il annonçait, que ça soit la gratuité des transports publics, que ça soit la généralisation des crèches et des modes de garde pour les enfants, que ça soit les questions aussi de construction de logements, de gel des loyers, tout ça, c'est des éléments qui ont directement trait au pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, c'est pas très original, mais aux États-Unis comme en France, c'est la première préoccupation des citoyens, et c'était vrai aussi à New York. Et ça, en plus, il l'a fait en ayant, grâce à sa personnalité, grâce à sa capacité aussi à bien interagir avec les gens de manière extrêmement naturelle, à être extrêmement présent, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les émissions télévisées plus classiques, bah, il a su justement vraiment se faire connaître et se faire connaître de manière extrêmement engageante et en étant sur des sujets concrets. Et c'est vrai que ça, les démocrates avaient un peu de mal à le faire. On a vu en 2024 que Kamala Harris, pendant sa campagne, par exemple, a été beaucoup sur la question de la démocratie. Est-ce qu'il fallait protéger la démocratie américaine ? Ce qui fonctionne très bien avec cet électorat, finalement, qui fait les campagnes américaines, c'est-à-dire les consultants blancs, diplômés, etc., mais qui fonctionne beaucoup moins bien quand vous cherchez à obtenir les voix des classes moyennes. Et ça, lui, il a réussi à le faire.
Mais c'est pour ça que je m'interroge, est-ce que c'est une insurrection de New York, en fait, la ville aussi, qui est aussi une ville en ébullition, c'est à la fois la ville la plus riche des États-Unis, mais celle qui est la plus inégalitaire, il y a quelque chose de très particulier. Ou est-ce que c'est une insurrection démocrate, quelque chose, là, pour le coup, pour la première fois, des démocrates qui disent, nous voulons une opposition plus agressive à Donald Trump, et voilà ce qu'elle devra être.
Je suis vraiment pas certain, en fait, que les électeurs qui ont voté pour Mme Daniel l'ont fait en ayant absolument Trump en tête. Je pense qu'ils l'ont fait en ayant un programme, en ayant des difficultés, le coût de la vie, et en ayant, bah, pour répondre à ces difficultés, un candidat qui mettait en avant des mesures qui paraissaient extrêmement concrètes et qui paraissaient du coup pouvoir un impact direct sur leur situation. Je ne suis pas absolument certain que voilà, la dimension nationale ait été si importante, même si elle a pu jouer pour certains électeurs. Après, la grande question, c'est de savoir si les démocrates, en revanche, vont regarder ce phénomène-là et essayer de se dire, bah, on va le répliquer au niveau national.
La dimension nationale, elle a joué, Mathieu Gallard, peut-être sur le dégagisme, en fait. Ouais. Parce que sont rentrés dans la bataille Bill Clinton... et peut-être par crainte même, en disant quel est ce phénomène-là. Donc il finit par rentrer dans la bataille, ça fait des années qu'on ne l'a pas entendu, Bill Clinton, en tout cas des mois, et rentrer dans la bataille Bloomberg, l'ancien maire, avec tous ses millions, tous ces gens-là soutenaient son opposant Andrew Cuomo. Donc est-ce qu'il y a aujourd'hui une espèce de crainte de l'establishment démocrate qui dit nous sommes en train de nous faire foutre dehors par ce genre de personnage, et si on ne suit pas ce mouvement-là, c'est mort?
Je pense qu'il y a effectivement une crainte parmi les leaders démocrates qui font vraiment partie, qui incarnent l'establishment du parti. Après, là encore, la situation à New York, elle est extrêmement spécifique. Ouais. On avait comme candidat, on va dire, de cet establishment, donc Andrew Cuomo, qui vient d'une dynastie politique extrêmement bien ancrée à New York, qui lui-même a été gouverneur de l'État de New York et a dû démissionner suite à des accusations de harcèlement sexuel. Et puis on a le maire sortant lui-même, qui là aussi était démocrate, qui a dû, qui a démissionné parce que, en gros, accusé de corruption, il s'est un peu rapproché de Trump et du coup, ces accusations sont tombées. Donc tous ces gens-là, ils incarnent l'establishment du Parti démocrate et véritablement, quelque part, Mme Dany a quand même bénéficié d'une opposition à lui qui était particulièrement toxique pour une grande partie de l'électorat new-yorkais qui est en demande de renouvellement. Donc là encore, je pense que les démocrates au niveau national, effectivement, sont inquiets. Est-ce que ça peut se reproduire partout? On va avoir de nombreuses primaires dans les mois qui viennent, parce qu'il y a les élections de mi-mandat en novembre prochain, et ça va jouer assez rapidement, début 2026, pour beaucoup de primaires. Je ne suis pas certain qu'on va avoir cette vague de dégagisme partout, mais c'est vrai que c'est certain qu'il y a une demande de renouvellement générationnel, de renouvellement en termes de profil et en termes de positionnement politique que Mme Dany incarne.
Vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une espèce de référendum sur le futur du Parti démocrate, en fait, ou en tout cas qu'on doit lire une partie de ce scrutin comme ça?
En partie, mais en partie seulement. Je pense qu'il y a quand même des éléments qui sont vraiment très liés à la situation, au contexte new-yorkais bien précis.
L'une des raisons pour lesquelles je vous pose la question, c'est que quand on sort des États-Unis et qu'on regarde d'autres pays, j'avais l'œil sur l'Argentine parce que c'est un peu un endroit qui ressemble aux États-Unis en la matière. Je pense à Kirchner, par exemple, qui désormais est inéligible de toute façon, parce que, mais au fond de la même manière, parce qu'elle trimbalait beaucoup de casseroles, parce que c'est cette même gauche-là depuis 30 ans et que le message que lui ont envoyé les Argentins c'est plus toi, c'est terminé, et que là aussi il y a une espèce de gauche zombie aujourd'hui qui ne sait plus où se raccrocher. Est-ce qu'on peut dire que cet exemple-là, celui des Américains, celui des Argentins, c'est le paysage mondial aujourd'hui au fond dans la montée des Trumpismes et les interrogations de la gauche derrière?
Je pense qu'il y a effectivement une part importante de l'électorat de gauche, quel que soit le pays, qui est effectivement extrêmement inquiète de la montée du populisme l'extrémisme de droite que Trump incarne, mais que d'autres dirigeants incarnent, et vous en avez parlé par exemple en Argentine avec Milei, mais il y a des exemples quasiment dans tous les pays. Mais cet électorat de gauche, je pense qu'il est un petit peu perdu, et donc c'est vrai qu'il peut se diriger vers un positionnement plutôt radical, plutôt en tout cas clairement ancré à gauche, comme l'incarne Mamdani. Il peut aussi aller vers des options plus modérées. On l'a vu par exemple, nous, aux élections européennes, avec Raphaël Glucksmann, voilà.
Je voulais vous aider, mais j'étais pas sûr que vous aviez le bon, mais allez-y.
Non, parfait. Et donc, en fait, pour moi, l'enjeu majeur pour la gauche, plutôt que de décider entre une option plutôt radicale, plutôt modérée, c'est effectivement d'articuler un discours qui soit cohérent sur l'ensemble des sujets et qui, du coup, décrive véritablement un cap. Parce que là, on a, par exemple, un Trump qui, lui, a quand même un discours qui est très clair. En fait, son positionnement sur l'immigration, sur les tarifs douaniers, sur le positionnement international des États-Unis, tout ça, ça forme un tout assez cohérent. La gauche, elle n'arrive pas à le faire. Il faut qu'elle le construise. Et ça sera peut-être quand ce discours global sera construit sur ce qu'est la gauche et ce qu'elle propose aux citoyens comme cap, comme horizon, qu'on pourra choisir entre un positionnement plutôt radical ou plutôt modéré.
Parce que ce qu'ils ont perdu là, et on l'a bien vu pendant la campagne, et notamment si on retourne aux États-Unis, sont les milieux populaires ruraux et les milieux populaires des classes périurbaines, en gros, enfin des zones périurbaines. Et en écoutant Mamdani, je me dis, ces gens-là, il ne les a pas, ce type de personnage, de toute façon, que ce soit lui ou n'importe qui d'autre, peu importe, mais ce genre de profil-là ne les a pas.
Non, il ne les a pas de toute façon parce qu'il n'existe pas vraiment à New York. Donc évidemment,
ça n'est pas
possible.
Non, mais c'est vrai aussi, mais ça ne résonne pas, en fait.
C'est pas évident, en fait. C'est la grande question. Là, ce qu'il a vraiment fait, c'est qu'il a mis au centre de sa campagne l'enjeu qui préoccupe le plus les électeurs américains, et qu'ils soient urbains, qu'ils soient périurbains, qu'ils soient ruraux. Donc effectivement, si vous avez un démocrate qui ne fait campagne que sur le pouvoir d'achat lors des élections demi-mandat de 2026 ou lors de l'élection présidentielle de 2028, ça peut quand même lui permettre de récupérer une partie de cet électorat plutôt populaire qui a échappé aux démocrates lors de ces dernières années. Il faut voir quand même si effectivement les républicains peuvent contre-attaquer, peuvent être aussi crédible. C'est vrai que là, on voit bien que Trump a de grandes difficultés aussi sur ce sujet. Donc ça sera un élément absolument intéressant. Mais il faut aussi que les démocrates soient ancrés dans ces territoires. Parce que le problème de la gauche, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est que finalement, en termes de présence militante, en termes d'élus locaux, elle a plus grand monde en fait dans les régions rurales, même dans les régions périurbaines.
On l'appelle en tout cas, lui, un populiste progressiste. Est-ce que ça parle, ce genre de terme-là, réellement? Ou est-ce que c'est vraiment des choses qu'on invente pour les mettre en porte-à-faux vis-à-vis du Trumpisme? Est-ce que ça a du sens?
Non, ça peut avoir du sens. Je pense que ça exprime quelque chose. Alors, populisme aux États-Unis, ça a eu un sens, une histoire aussi assez spécifique. Et du coup, dans le contexte américain, ça veut vraiment dire quelque chose. Effectivement, après, voilà, le populisme progressiste, je pense que d'un pays à l'autre, d'une personnalité à l'autre, vous allez avoir des incarnations et des programmes qui vont être assez différents. Mais ça montre effectivement qu'en tout cas, au sein de la gauche, il y a un vrai débat et un débat intéressant sur la direction à prendre et les meilleures options pour faire face à la montée de la droite populiste.
Après, un personnage comme Zoran Mamdani, né en Ouganda, naturalisé américain en 2018, c'est même finalement assez récent, parent indien, issu de la diaspora, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est né en Ouganda. Est-ce qu'on se dit que là aussi, c'est ça la spécificité? Et pour le coup, il n'y a que les Américains qui sont capables de faire une chose pareille. Est-ce qu'on transpose une personnalité comme celle-là ailleurs qu'aux États-Unis, ailleurs même peut-être qu'à New York d'ailleurs?
Non, mais c'est une réalité. C'est vrai que dans la plupart des démocraties européenne, on est sur des leaders, qu'ils soient de gauche d'ailleurs ou d'autres formations politiques, qui sont beaucoup plus ancrés de longue date dans la vie politique, qui ont effectivement fait un parcours assez classique, assez cohérent. Bon, vous avez eu Emmanuel Macron en France en 2017, mais c'est quand même un peu l'arbre qui cache la forêt. Donc c'est vrai qu'il y a cette capacité encore aux États-Unis aujourd'hui à surgir un petit peu de nulle part. Alors ça peut être de tous les côtés du spectre politique, parce que Trump en 2015, quand il déboule dans le champ politique, c'est aussi ça. Évidemment, c'est pas du tout le même profil.
Tout le monde le connaît par ailleurs.
Oui, mais c'est vrai qu'Obama, si vous prenez Obama en 2008, quelques années auparavant, il était totalement inconnu. Donc voilà, il y a cette capacité du système politique américain quand même à générer et à permettre à des personnalités véritablement inconnues et qui quand même incarnent des choses fortes de surgir, alors que dans les démocraties européennes, ça me paraît beaucoup plus compliqué.
Peut-être au Royaume-Uni d'ailleurs, au pire, en fait, j'allais dire. C'est le seul contre-exemple, effectivement, ça peut être le Royaume-Uni. On verra s'il faut le suivre, ce garçon. D'abord, les élections, c'est au mois de novembre, une chose après l'autre. Effectivement, il s'appelle Zoran Mamdani. Est-ce que la clé de stratégie anti-Trump a été trouvée par les Américains? Bon, on le saura. Merci beaucoup.
Merci
d'avoir été avec nous, Mathieu Gallard. La suite, ce soir, c'est le reportage d'Un jour dans le monde. C'est la suite de notre série à Srebrenica, 30 ans après le génocide de juillet 95. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, il y a Kevin Dufresne sous les radars.
En Chine, on peut remanger des fruits de mer japonais. Il y a un peu de diplomatie dans tout ça.
Le monde à 18h50 et Frédéric Saïs. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Fabienne. Et si Donald Trump était la meilleure chose qui soit arrivée à l'Europe ?
Et le cinéma en VO avec Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne.
Bonsoir. Le grand retour des blockbusters d'été. 4 fantastiques, un Superman et des super dinosaures. C'est Gareth Edwards qui signe le dernier volet de la saga Jurassic World. Et c'est une réussite.
Allez, à tout de suite les amis. Le tour de la planète commence à peine. Il passe par le Royaume-Uni. Tiens, on y était à l'instant avec les habitués de la playlist d'Inter, Wet Leg. Le morceau s'appelle CPR, comme premier secours. Et par ces chaleurs, ma foi, on n'est jamais trop prudent. Lost in your eyes, I took a breath, jumped off the cliff because you told me to. Is it love or suicide? Is it love or suicide? Is it love or suicide? Is it love? Le reportage ce soir encore est à Srebrenica. Si les responsables serbes, responsables du génocide de juillet 95, ont été condamnés par la justice internationale, la mémoire contestée, comme on dit, de Srebrenica empêche toujours la réconciliation des différentes communautés. Les accords de Dayton imposés par les Américains ont donné naissance à un État, à l'administration ultra complexe qui a institutionnalisé les divisions ethniques. Les nationalistes de tous bords n'ont cessé de souffler sur des braises mal éteintes, discours négationnistes, revanchards, et à la fin, rares sont les personnes qui affichent leur volonté de vivre ensemble. C'est le deuxième volet de cette série de reportages et c'est Louis Seyé qui raconte.
Je me bats pour ce pays, je me bats pour tous ces habitants. Je me bats pour une Bosnie multiethnique, multiculturelle.
Dans son petit bureau de la mairie de Srebrenica, Gile Omerovic tente de rester optimiste. Carrure imposante et sourire enfantin, ce survivant du génocide veut croire au vivre ensemble entre bosniaques musulmans et serbes orthodoxes, 3 décennies après la guerre.
Les gens, ils sont bien conscients que nous ne pouvons pas vivre autrement qu'ensemble. Ça c'est clair, ça c'est clair. Il n'y a pas d'autre option pour nous. C'est le mélange qui est en fait la richesse d'une nation et tout ça.
En juillet 95, Gile s'est caché dans les forêts pendant 2 mois afin d'échapper au massacre perpétré par l'armée des Serbes de Bosnie. Aujourd'hui, si les maisons en ruine sont toujours visibles sur les collines de Srebrenica, Serbes et Bosniaques vivent à nouveau côte à côte. Mais dans une Bosnie divisée, Gile se sent toujours menacé par les discours des nationalistes serbes.
Il y a des problèmes quand même, mais pas avec les gens simples, nos voisins serbes et tout ça. Nous avons des problèmes avec les politiques. Avec les politiques qui viennent de Belgrade, qui est encore vivant, c'est les mêmes politiques qui existaient depuis l'année 92, une idée de la Grande Serbie. Donc la clé de tous les problèmes ici, c'est la Serbie en fait, c'est Belgrade.
À Belgrade, comme dans l'entité serbe de Bosnie, les dirigeants rejettent les conclusions de la justice internationale qui a condamné pour génocide les responsables de guerre serbe. C'est aussi le cas de la plupart des collègues serbes de Gile.
Les ambassades occidentales et le monde entier disent que le général Ratko Mladic est un criminel de guerre, mais c'est un héros. Si Ratko Mladic n'avait pas été là, il n'y aurait pas de Serbes ici.
Branimir Kojic travaille à la mairie de Srebrenica. Il préside une association de victimes civiles serbes.
Moi, je dis que Srebrenica n'est pas un génocide. La science a prouvé que ce n'était pas un génocide. Dans leur rapport, tous les experts de l'Holocauste ont prouvé qu'il n'y avait pas eu de génocide à Srebrenica.
Ce rapport très controversé a été commandé par le président de la République serbe de Bosnie. Soutien affiché de Vladimir Poutine, Milorad Dodik nie ouvertement le génocide et il menace régulièrement de déclarer l'indépendance de l'entité serbe. Comme lui, beaucoup de Serbes accusent la justice et les Occidentaux de minimiser les crimes commis contre les civils serbes. Le père de Branimir Kojic a été tué par des Bosniaques au début de la guerre.
Nous voulons simplement que notre voix soit entendue. En Bosnie-Herzégovine, il n'y a pas d'avenir tant que la vérité n'aura pas été révélée et que les Bosniaques n'auront pas reconnu que mon père a été assassiné. Tant que nous ne regarderons pas toutes les victimes de la même manière, il n'y aura pas d'avenir dans ce pays.
Constamment agitée par les politiques et les médias locaux, cette bataille des mémoires éloigne chaque jour un peu plus les peuples de Bosnie-Herzégovine. Surtout que les nationalistes ont aussi investi l'école et les programmes scolaires. Mirela Osmanovic travaille pour le mémorial du génocide de Srebrenica, au cours duquel plusieurs de ses proches ont été tués.
Les programmes scolaires de la République serbe de Bosnie ne mentionnent pas le génocide. On est donc dans une situation vraiment particulière. Les enfants qui vivent à Srebrenica, le lieu même où le génocide a été commis, n'apprennent rien sur ce dernier. Cela fait partie d'une stratégie pour l'effacer de la mémoire.
Confrontée à l'omniprésence de ce douloureux passé et aux tensions politiques, la jeunesse bosnienne regarde ailleurs. Bosniaque comme serbe, les jeunes émigrent en masse et le pays a perdu près d'un quart de sa population depuis 1991.
Louis Seyer pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche.
250 years of brutalized colonization.
Et nous sommes d'abord en Australie, hein, on l'entend avec l'accent, avec un rapport important.
Oui, celui d'une commission d'enquête de l'État du Victoria qui, pour la première fois dans le pays, écrit « Il s'agit d'un génocide à propos du sort des aborigènes, les peuples autochtones d'Australie massacrés dès le début de la colonisation européenne en 1778. » Pendant 4 ans, cette commission a documenté les massacres, donc les enlèvements d'enfants, l'importation volontaire de maladies, les violences sexuelles ou encore l'assimilation à marche forcée tentant de réduire à néant la culture de ces Premières Nations. Le mot de génocide n'est pas utilisé d'ordinaire pour des faits qui concernent la colonisation. La définition de l'ONU étant, je cite, « l'intention de détruire un groupe national ou ethnique ». Les rapporteurs estiment que dans le cas des aborigènes, il y avait bien une intention. Au-delà de la définition et du travail historique, ils font une centaine de recommandations, notamment une indemnisation financière et la restitution des terres ancestrales aux aborigènes. Les aborigènes, comme beaucoup d'autres peuples autochtones dans le monde, sont marginalisés en Australie. Ils ont une espérance de vie moyenne de 8 ans inférieure au reste de la population et subissent une plus forte précarité économique.
Nous voici en Chine qui réimporte des fruits de mer japonais.
Ah oui, ce n'était plus le cas depuis 2 ans et le début du rejet en mer par le Japon des eaux usées traitées de la centrale nucléaire de Fukushima, détruite par un tsunami en 2011, malgré l'assurance des autorités japonaises qu'il n'y avait aucun risque pour la consommation de poissons et de crustacés. Pékin avait fermé ses frontières, mais lundi, les autorités chinoises ont indiqué que leur propre relève relevé n'ayant pas détecté d'anomalie, le commerce pouvait reprendre, à l'exception des importations en provenance de 10 des 47 provinces du pays. Une étape majeure saluée par le gouvernement japonais et dans le pays, plusieurs médias voient dans cette décision le premier signe d'un réchauffement global des relations entre Pékin et Tokyo, à l'heure où celles entre la Chine et les États-Unis de Donald Trump sont toujours très tendues. Le gouvernement chinois cherche à en amoindrir les dégâts en tentant de stabiliser ses relations avec le Japon et d'autres pays, écrit par exemple le journal Mainichi Shimbun. Ça arrangerait bien l'économie japonaise.
For Windows, blue screen of death, finally dying.
Allez, nous sommes aux États-Unis donc, avec un changement qui concerne le monde entier.
Et oui, car c'est une décision de Microsoft, le leader mondial de l'informatique, avec son système d'exploitation connu de tous, Windows, qui nous a tous un jour rendus fous avec le « blue screen of death », en français l'écran bleu de la mort. Vous savez, celui qui apparaît avec ce message « Votre PC rencontre un problème ». De préférence, ça arrive quand on est en train de faire quelque chose de très important et qu'on n'a pas enregistré, évidemment. Eh bien, terminé l'écran bleu. Microsoft, à la faveur du déploiement de Windows 11, va le remplacer par un écran noir. L'entreprise promet un message plus lisible écrit et qui crée moins de panique pour les utilisateurs. Alors c'est gentil, mais ça voudra quand même dire que l'ordinateur a planté. Le BSOD pour les intimes est connu dans le monde entier depuis plus de 40 ans. Il avait même fait rire tout le monde lors de la présentation en grande pompe de Windows 98. Un employé de Microsoft présente le logiciel à Bill Gates devant toute la presse.
You'll notice that this scanner build...
et la bim, écran bleu. Voilà pourquoi il n'est pas encore sur le marché, avait alors plaisanté, le fondateur de Microsoft en riant, un peu jaune sans doute à ce moment-là.
Et vous savez ce que ça fait, un écran bleu et un rire jaune?
Ça fait
du vert, hein, voilà. Kevin. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Merci beaucoup. Allez, vous partez avec les Pink Floyd, Shine on Your Crazy Diamond. Ça date de 76, 75 même.
Remember. Like the sun. You strong.
Boy de Shine on You Crazy Diamond de 75 sur France Inter et dans Un jour dans le monde à 18h, presque 51, c'est Frédéric Saïs.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Es. Le 18-20.
Frédéric, ce soir, vous posez cette question. Donald Trump est-il en train de rendre sa grandeur à l'Europe ?
C'est l'un des effets inattendus de sa politique économique brutale et changeante. Les investisseurs internationaux perdent confiance, ils se détournent des États-Unis et placent leur argent en Europe. Qui l'eût cru ? Le Financial Times le raconte dans son édition du jour. Le quotidien économique de référence note que les entreprises européennes voient affluer les capitaux ces dernières semaines, y compris les sociétés les plus endettées ou les plus à risque. L'Europe est rassurante, que voulez-vous ? Alors, comme une volée de moineaux, voici les investisseurs effrayés par l'épouvantail Trump qui viennent se poser sur la branche européenne, répit et repos. L'indice des bourses en Europe en profite. D'ailleurs, il progresse plus vite que son équivalent américain depuis le début de l'année, depuis l'investiture de Donald Trump.
Et alors, comment expliquer ce phénomène ?
Le pilotage heurté de l'économie américaine y est évidemment pour beaucoup. Coup d'accélérateur sur les droits de douane, puis coup de frein, chantage, puis négociation. Tout cela donne le mal de mer aux actionnaires qui n'aiment rien tant que la stabilité. Tout cela est connu. Un autre répulsif pour les milieux d'affaires, et on en parle moins, c'est le déficit budgétaire abyssal que propose Donald Trump. Sa grande loi, qui est en cours d'examen par le Congrès, fait exploser les plafonds de la dette. Cela crispe d'ailleurs une partie de son camp et cela ulcère même Elon Musk, l'entrepreneur libertarien. Il est dépité de voir l'État emprunter et dépenser toujours plus. Pour Donald Trump, attention au syndrome Liz Truss, du nom de cette première ministre ultralibérale en Angleterre. Il y a 3 ans, elle a dû démissionner après avoir perdu la confiance des marchés. Trop de baisses d'impôts, pas assez de recettes, frayeur boursière sur l'équilibre des comptes. Certes, les États-Unis ne sont pas l'Angleterre, mais le président américain aurait tort d'ignorer les signaux faibles, dont ces capitaux qui s'expatrient vers l'Europe.
Alors justement, pourquoi les investisseurs choisissent-ils l'Europe ?
Oui, quel retournement, c'est vrai. Voilà que ce vieux continent qu'on disait décati et sclérosé deviendrait sexy et convoité. En fait, précisément, les défauts qu'on attribuait jusqu'ici à l'Europe deviennent des qualités, par contraste avec l'Amérique de Trump. Par exemple, l'Europe passait pour lente et indécise. Désormais, on loue son côté calme et prévisible. Elle passait pour bureaucratique et surréglementée. On salue maintenant son attachement à l'état de droit et aux règles, sous-entendu pas comme l'arbitraire qui semble s'imposer de l'autre côté de l'Atlantique. Alors bien sûr, il faut se garder de toute conclusion définitive. Par définition, les stratégies d'investissement sont volatiles, elles peuvent se retourner. Néanmoins, la tendance commence à s'installer. Depuis le début de l'année d'ailleurs, le dollar s'est déprécié de plus de 10% face à l'euro.
Et c'est notamment l'Allemagne qui attire les capitaux.
Je n'avais jamais été autant courtisé, raconte Stéphane Wintel, le PDG d'une banque allemande dans le journal économique Handelsblatt. Pourquoi ? Eh bien parce que le nouveau gouvernement allemand a décidé de lâcher les chevaux, d'en finir avec la rigueur budgétaire, investissement de 500 milliards débloqués pour rebâtir les infrastructures, ce qui va évidemment doper la demande et la croissance. Changement salué par le plus grand fonds d'investissement au monde, Blackstone. Il promet d'investir plusieurs centaines de milliards d'euros en Europe dans la décennie qui vient. Cela dit, l'Union européenne souffre encore de sa complexité, 27 fiscalités différentes, 27 réglementations hétéroclites, l'unification des normes comme priorité encore affichée au sommet européen de la semaine dernière. Alors peut-être pourra-t-on dire un jour que depuis Jean Monnet, personne n'a autant fait avancer l'Europe que Donald Trump.
Frédéric Saïs, merci beaucoup et à demain. Le mercredi, c'est le cinéma en VO et c'est Corinne Pellissier.
Moteur. France Inter.
And the Oscar goes to...
Un jour dans le monde.
Dr. Henry Loomis, this is Zora Bennett, our mission specialist.
Sorry, what mission?
My God. This would be a medical breakthrough that could save countless lives.
Corinne, donc des dinosaures en pagaille pour lancer ce mercredi la saison des blockbusters de l'été avec Jurassic World Renaissance. C'est que le début, si vous aimez les grosses productions, les films de super-héros, l'été sera dense. Est-ce qu'on arrivera à réaliser une adaptation enfin à la hauteur des personnages des 4 fantastiques ? Je me pose la question. Que fera James Gunn de Superman à présent qu'il a quitté Marvel pour DC Comics ? On n'en sait rien. Réponse la semaine prochaine sur les écrans. En attendant, donc, voici un autre prodige qui se prépare ce mercredi à relancer sa saga Jurassic, initiée il y a 30 ans, évidemment, par Spielberg. Il y a du boulot, Corinne, parce qu'après 6 films, on a un peu fait le tour de la question dinosaure. Hein.
Et ce n'est pas pour rien qu'Universal a décidé de sortir ici la grosse artillerie. Scarlett Johansson au casting, le tout premier scénariste de Jurassic Park, David Kopp à l'écriture. Et pour réaliser le film, le nouveau prodige de la science-fiction, Gareth Edwards, à qui l'on doit l'un des meilleurs films de la galaxie Star Wars, Rogue One. leur mission et ils l'ont accepté, rendre à nouveau attractive la franchise, toujours très bankable mais qui avait fini par décevoir. 29% de spectateurs satisfaits sur le site Rotten Tomatoes pour le dernier volet, Le Monde d'après. Il y avait urgence, retour donc aujourd'hui à la formule d'origine et sur le centre de recherche où tout a commencé en 1993. Gareth Edwards, connu pour son savoir-faire en matière de technique, ne déçoit pas. Les dinosaures sont beaux, tous différents, ne servent plus l'histoire juste par prétexte. Le cinéaste est un fan de la saga et ça se voit.
When I was young, you know, with Spielberg.
Quand j'étais jeune, Spielberg faisait un film quasiment tous les ans. C'est incroyable le nombre de grands films qui sortent chaque année et qui sont devenus des classiques. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, Jurassic Park a changé ma vie. Je me suis mis à l'infographie pour apprendre, moi aussi, à créer des dinosaures quand j'étais petit dans ma chambre. Quand on m'a envoyé le scénario, j'avais le week-end, en gros, pour le lire. Et ça tombait mal. J'avais prévu de faire un break. Et vous savez, du coup, ce que je me suis dit, j'espère que je ne vais pas l'aimer. J'aurais juste à dire merci beaucoup, mais je ne suis pas dispo. Et en fait, il était vraiment bien.
Et donc, on va retrouver ici Scarlett Johansson, Marshall Ali en mercenaire, dans une mission secrète aux côtés d'un scientifique véreux qui a décidé d'aller prélever de l'ADN de dinosaures pour sauver le monde et gagner aussi beaucoup d'argent. Au programme de l'aventure, du danger, de l'adrénaline, un dilemme moral, résultat plutôt conforme à ce qu'on attend de ce genre de film qui tient en haleine, avec des personnages également plus développés que précédemment.
Et alors, ce qui est amusant, Corinne, c'est que Gareth Edwards n'a pas cherché à faire comme si le dernier volet avait marché. Il se sert même de cet effet de lassitude pour relancer la saga avec quand même un certain humour.
Oui, ras-le-bol des dinosaures, voilà le point de départ, exactement comme dans le roman de Michael Crichton dont est inspirée la saga. Et c'est vrai que Gareth Edwards s'est amusé de cette ironie, appuyée dans le film par un personnage un peu ringard mais important. C'est à travers lui que le cinéaste va venir chercher la part d'enfance en chacun de nous. Les dinosaures, c'était son rêve de gosse, ce n'est pas un aventurier, mais lui aussi sera prêt à tout pour les approcher sur la terre, en mer, dans le ciel. Là aussi, la production a mis le paquet, anticipé la guerre des blockbusters. De super dinosaures ce mercredi, un Superman la semaine prochaine et 4 fantastiques dans 2 semaines. Ça fait du monde dans la bataille des chiffres au box-office et heureusement, avec son flegme britannique, Gareth Edwards a dans sa manche une botte secrète. Elle est toute mignonne, elle tient dans un sac à dos, elle s'appelle Dolores et vous verrez, c'est elle la vedette.
On a un dinosaure, c'est vrai qu'il nous suit partout. Vous pouvez le caresser, mais attention, elle pourrait bien vous mordre un doigt. Plus sérieusement, j'espère que tous ces films seront réussis. Je ne me sens pas du tout dans une compétition. Ce qui compte pour moi, c'est que le cinéma revienne à son niveau d'avant la pandémie. C'est tellement fort, cette expérience qu'on vit ensemble. Il y a un côté très primitif. Comme quand on était enfant et qu'on s'asseyait autour d'un feu de camp, à écouter quelqu'un nous raconter une histoire qui lui était arrivée quand il était jeune, il avait survécu. Un monstre. Et on se disait, oh mon Dieu, c'est incroyable. Et on veut faire ça plus tard. Ça fait des millions d'années ou au moins des centaines de milliers d'années qu'on fait ça. J'espère vraiment qu'on va retrouver cette sensation.
Eh ben, on attendra pour voir Jurassic World Renaissance, signé Gareth Edwards, qui sort, attention, ce vendredi, journée sortie mondiale, donc ce sera vendredi, voilà, vous attendrez 2 jours.